autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour décentrer notre regard aujourd'hui et nous intéresser à l'histoire des sciences et des mathématiques dans le monde, et notamment son développement et son évolution en Orient. Et nous demander, par exemple, pourquoi l'apport des sciences en langue arabe a-t-il été si longtemps négligé, voire dénié ? Comment le faire revivre aujourd'hui ? Ce patrimoine scientifique universel pourrait-il ouvrir de nouvelles pistes d'échange et de réflexion partagée ? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités, le mathématicien, philosophe et historien des sciences Rojdi Rached et la philosophe des sciences et des mathématiques Ouria Benissi Nasser. Nous sommes également en compagnie du logicien Jean-Paul Delahaye qui nous proposera lui un arrêt sur l'image fascinante et toujours énigmatique du nombre pi autour de la question « Pourquoi refaire l'histoire des mathématiques ?» Bienvenue. Bonjour Rojdi Rached.
Bonjour.
Très heureuse de vous recevoir sur RFI. Après l'hommage qui vous a été rendu à l'Institut du Monde Arabe à Paris, vous êtes Rojdi Rached, mathématicien, philosophe, historien des sciences, un des plus grands spécialistes de l'histoire des mathématiques et de la science arabe, directeur de recherche au CNRS, professeur émérite à l'université de Tokyo et à l'université de Mansoura en Égypte, mais aussi à l'université Paris 7. Vous avez été l'un des premiers à étudier, Rojdi, en détail les textes antiques et médiévaux pour explorer la pensée arabe et mettre en évidence ses apports, notamment en ce qui concerne le développement de l'algèbre et les premières formalisations de la physique. Jusque-là, est-ce qu'on peut dire qu'on sous-estimait, est-ce qu'on négligeait cet apport, est-ce qu'on considérait finalement que les sciences en langue arabe n'étaient qu'une simple traduction, une retransmission du monde grec vers l'Occident, Rojdi Rached ?
En fait, on n'a pas négligé complètement. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure dans la discussion privée, qu'il y avait un intérêt à la fois en Allemagne au 19e, fin 19e siècle et 20e siècle. Il y avait des recherches très sérieuses sur l'histoire des sciences et surtout des sciences exactes en arabe, mais aussi avant, en France, vers les années 80. C'est-à-dire avant l'occupation de l'Algérie, pour dire les choses très franchement.
Avant la colonisation.
Avant la colonisation, et c'était avec l'initiative du grand mathématicien Michel Schall, qui a fait venir un très bon historien allemand qui s'appelle Franz Webke, et ils ont commencé, Webke a publié déjà en français, des trois travaux vraiment de premier plan. Après l'occupation de l'Algérie, l'intérêt a complètement, je parle pour la France, l'intérêt a complètement changé. Au lieu de travailler sur l'histoire des disciplines rationnelles comme les mathématiques, l'optique et la philosophie, on s'est intéressé au droit, aux coutumes, c'est-à-dire tout ce qui sert effectivement la colonisation. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un intérêt réel pour l'histoire des sciences arabes. Et surtout, en Union soviétique, il y avait une école très importante qui est à Moscou, sous la direction d'Adolf Yushkevich, qui ont fait des travaux d'une très grande valeur. Et bon, il y avait aussi un effort dans certains pays arabes, par exemple sur l'histoire de la physique en Égypte. Il y avait un très grand monsieur qui a écrit un livre d'un niveau jamais atteint sur l'optique en particulier, etc. Mais pour des raisons diverses dans lesquelles je n'entre pas, cette tendance a commencé à diminuer un peu.
Et il a fallu que vous arriviez avec votre connaissance des mathématiques et de l'arabe pour replonger dans tous ces textes. Bonjour Ouria Benissi Nasser.
Bonjour.
Vous êtes philosophe des sciences et des mathématiques, directrice de recherche émérite au CNRS, professeur et chercheur à l'Institut universitaire de recherche de Rabat au Maroc. Vous dirigez la collection d'histoire et de philosophie des sciences chez Vrin. Spécialiste de logique, vous avez vous aussi participé à l'Institut du monde arabe à Paris à la table ronde, en hommage à Rojdi Rached ici présent. Vous avez vous aussi le sentiment finalement que jusqu'à son arrivée et ses travaux, l'apport aux sciences en général du monde arabe était sous-estimé ou mis entre parenthèses ?
Jusqu'à son arrivée, et à quelques autres un peu avant lui et après lui, comme il l'a dit très bien lui-même. Je pense que ça dépend d'une part de ce qui peut se faire à l'université ou dans des instituts de recherche, ça dépend aussi de la disposition politique et idéologique de l'endroit où l'on travaille. Certaines circonstances peuvent favoriser une recherche plus ou moins neutre et indépendante, et d'autres fois, comme par exemple aujourd'hui au CNRS, où beaucoup de recherches sont commandées par l'état géopolitique de la France, et où on demande aux gens de faire des recherches. Il y a même des protestations de chercheurs qui ne veulent pas, par exemple des géographes, qui ne veulent pas étudier tel pays d'Afrique en fonction de la demande de l'État, mais qui veulent étudier telle coutume ou telle chose dans tel pays d'Afrique de manière a priori neutre.
Mais en fait, a priori neutre, hein, ce dont on se rend compte aussi, c'est que ce n'est jamais neutre. Et les sciences font partie de notre monde, hier comme aujourd'hui. Enfin, ça fait partie,
bien
on a
entendu.
Un regard différent sur les bien sciences, entendu. Selon où l'on se place sur le globe. Roche Dirachet.
Oui, ce point, c'est qu'il y avait quand même une dominance idéologique à partir de l'école romantique allemande, c'est-à-dire à partir de la fin du 19e siècle, pour représenter les choses, qu'on faisait l'histoire par la langue. C'est-à-dire pas l'histoire de la langue, mais l'histoire par la langue. Et ainsi, on a classé l'humanité en simites et ariens, et que la science ne faisait que dans la civilisation arienne, tandis que les simites ne peuvent faire que de la poésie, de la littérature, etc. Et c'est pour cette idéologie a été emportée en France. Et la plus grande école française d'histoire des mathématiques, c'est-à-dire fin 19e, début 20e siècle, je pense à des très grands historiens, comme Paul Tannery, par exemple, ont adopté, malheureusement, comme Duhem, le grand physicien Pierre Duhem, ont adopté cette idéologie, et cette idéologie était un obstacle à la recherche.
Sortons de cette idéologie et de toutes les idéologies, si c'était possible. Bonjour Jean-Paul Delahaye.
Bonjour.
Avec vous, on reste dans la logique et dans les calculs mathématiques, mais pas dans l'idéologie. D'hier à aujourd'hui, autour du fascinant nombre pi, votre essai, qui reparaît dans une édition largement revue et augmentée aux éditions Belin. Je signale d'ailleurs à nos auditeurs que nous avons un exemplaire de ce fascinant nombre pi à vous faire gagner. Avis aux amateurs. Jean-Paul Delahaye, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille, où vous avez enseigné les mathématiques et l'informatique. Aujourd'hui, chercheur au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille, et grand passeur de science dans vos chroniques et dans vos essais. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'omniprésence du nombre pi en maths, en physique, mais aussi dans notre imaginaire universel, collectif? Peut-être aussi d'ailleurs une manière de refaire de l'histoire des sciences.
Oui, je m'y suis intéressé parce qu'en fait, c'est clairement une sorte de trait d'union qui relie toutes les périodes. En fait, on a commencé à s'intéresser alors, de manière indirecte à pi par le problème de la quadrature du cercle, donc dès l'Antiquité. Ensuite, on a cherché plus ou moins à le calculer, donc à la suite d'Archimède et en copiant ou en faisant des variantes sur le travail d'Archimède. Et puis quand l'analyse est née, donc quand on a développé les notions de série, les notions de dérivée, etc., on a était en mesure de calculer pi avec plus de précision, en même temps qu'on précisait les fonctions trigonométriques. Et puis, chose étonnante, à l'époque moderne, donc à l'époque maintenant des algorithmes, des calculs de produits, etc., de multiplication, et avec le développement de l'informatique, on s'est trouvé confronté à de nouveaux problèmes qui étaient liés à pi, le calculer le plus loin possible, le plus efficacement possible, et ça a fait naître toute une... Plutôt, ça a été lié, on ne peut pas dire que ce soit le calcul de pi qui était à l'origine absolument, mais ça a été lié à toutes sortes de progrès mathématiques. Par exemple, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est ce qui s'est passé pour la multiplication, du point de vue algorithmique. La multiplication, on connaît ça depuis 2000 ans. Ce sont les Indiens qui ont introduit le procédé de multiplication qu'on apprend à l'école. Et pendant très longtemps, on a cru que quand on devait multiplier des très grands nombres, en fait, on ne pouvait, d'une certaine façon, pas faire mieux qu'appliquer cet algorithme découvert ou mis au point par les Indiens. Et on était persuadé que donc, pour multiplier deux nombres de taille n, il fallait, en gros, un calcul qui soit proportionnel à n au carré. Et de manière très surprenante, Karatsuba découvre une formule qui permet de calculer les multiplications plus rapidement, que personne n'avait jamais imaginé. Et cette découverte, après, on a entraîné d'autres. Et aujourd'hui, on sait faire des multiplications entre très grands nombres dans un temps qui est pratiquement proportionnel à n, la longueur, au lieu d'être proportionnel à n au carré. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. C'est passé à côté de l'esprit des plus grands mathématiciens qui n'ont pas vu ça. Et c'est seulement au moment où on doit programmer des ordinateurs qu'on découvre cette chose-là.
Puisque vous parlez d'ordinateur, Jean-Paul Delahaye, et d'algorithme, on va peut-être rendre hommage tout de suite à peut-être une des figures les plus emblématiques, à la fois de l'oubli et de l'apport des sciences arabes au monde. C'est celle d'Al-Kharizmi. Ce mot algorithme, oui. Je le prononce mal, prononcez-le pour moi,
Roger Hachem. Oui, c'est-à-dire Al-Khwarizmi, comme on l'a dit, il a plusieurs contributions. Il a travaillé en mathématiques, il a travaillé en astronomie, c'est très important aussi.
Oui, les mathématiciens étaient de grands astronomes.
Oui. Alors, lui, il a, selon moi, il a commencé vraiment une nouvelle discipline qui est l'algèbre, que selon moi, il n'y avait pas avant lui. Cette nouvelle discipline, qu'est-ce que c'est ? Elle a conçu des choses, à la fois deux types de démonstrations conjuguées, géométriques et algorithmiques. Donc il y a des solutions algorithmiques, des équations des deux premiers degrés à ce niveau-là, à cette époque-là, mais en même temps, il fallait démontrer l'algorithme, et démontrer géométriquement l'algorithme. Et ça, c'est le fond de ce qui va devenir l'algèbre. C'est deux dimensions à la fois, c'est-à-dire démonstrative et algorithmique.
Et ça, on le doit à Al-Kharizmi. Alors, histoire de nous ouvrir un peu plus les oreilles, l'esprit et le cœur, sur RFI, je propose d'écouter, c'est vous, Ouria Benassi, Sinasseur, qui m'avez mis sur cette piste, je propose d'écouter Ibrahim Malouf, Oud Improvisation. Histoire de nous mettre dans le mood autour de la question pourquoi refaire l'histoire des sciences en général et des mathématiques en particulier, en mettant en lumière l'apport des sciences arabes en compagnie de nos invités, le mathématicien, philosophe et historien des sciences Roger Hached, la philosophe des sciences Ouria Benissi-Nasseur et le logicien Jean-Paul Delahaye. Je propose d'écouter l'éclairage de Karine Chemla, qui elle aussi a participé à l'hommage qui vous a été rendu, Roger Hached, pour vos travaux sur l'apport des sciences arabes à Lima, à Paris. Karine Chemla est spécialiste des mathématiques de la Chine ancienne et elle est en charge du projet européen SOW, sciences mathématiques dans le monde ancien. On l'écoute.
Bien entendu, la science qui a été faite dans le monde arabo-musulman est une science qui a été très puissamment internationale, comme il l'a dit. C'est une science qui emprunte et qui prolonge des travaux qui ont été dans un premier temps écrits en grec, en sanskrit, en chinois. C'est une science qui ne fait pas que prendre et prolonger ses travaux, mais qui les mélange. Et je pense que ce travail de synthèse a joué un rôle absolument essentiel, mais peut-être sous-estimé, dans l'histoire des sciences. Je pense que nous manquons de travaux sur ce rôle de la synthèse de savoir qui venait d'un peu partout dans le monde.
De toutes ces différentes sources mathématiques,
voilà.
En fait.
Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que ce n'est pas seulement par ces sources que ces savoirs arabo-musulmans sont internationaux. Pourquoi on dit arabo-musulmans ? Essentiellement, c'est parce qu'ils ont été écrits en arabe. Mm-hmm. Ce n'est pas par leurs sources, mais c'est également par leur devenir. Malheureusement, nous vivons encore dans une histoire des sciences qui est beaucoup tournée vers l'Europe. Nous nous intéressons à ce que l'Europe a reçu du monde arabo-musulman. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous sommes le nez centré sur l'Europe. Mmh. Mais en fait, les savoirs qui ont été élaborés dans le monde arabo-musulman, ils ont été transmis en Inde, ils ont été transmis en Chine, Et je pense que c'est en fait la première internationalisation des sciences. À la cour chinoise au XIIIe siècle, il y a un bureau d'astronomie musulmane où l'on pratique l'astronomie musulmane. En Inde, on a des manuscrits par milliers qui sont encore la trace de la présence des savoirs arabo-musulmans en Inde. En fait, ce savoir arabo-musulman, il n'a pas du tout émigré en Europe pour un devenir européen de la science. Ça, c'est une vision européocentrée de l'histoire des sciences. En fait, il a été en interaction avec la Chine, en interaction avec l'Inde, et les savoirs arabo-musulmans ont été traduits en chinois, en sanskrit.
Qui veut réagir à cet éclairage de Karine Chemla, Rojdi Rached, Ouria Benissinasseur?
Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces choses-là. Je trouve que l'éclairage de Karine est très intéressant parce qu'il balance le regard de l'autre côté. Mais ça n'exclut pas qu'il y a eu une transmission en Occident, c'est absolument évident, et qui était présente jusqu'au XVIIe siècle. C'est à partir, disons, du XVIe, XVIIe siècle qu'on a commencé à occulter l'héritage arabe. Moi, je dis arabe puisque c'est des sciences qui ont été écrites dans une langue arabe par des gens qui n'étaient pas seulement arabes, mais qui avaient toutes sortes de nationalités et toutes sortes de religions aussi. C'est en ce sens que c'est international également. C'est pas seulement parce que ça a voyagé à l'Est et à l'Ouest, mais c'est aussi parce que ça a été pratiqué par des gens d'origines diverses et de religions diverses.
L'influence de ces grands savants qui écrivaient donc en langue arabe, astronomes, mathématiciens, physiciens, leur influence, elle a été considérable sur l'évolution des sciences en général, Roger Rached.
C'est certain, mais je voudrais quand même dire quelques mots à propos de ce qui est dit Karine. Il y a quelque chose de très juste. C'est la première science internationale. C'est-à-dire, avant, par exemple, la science grecque, c'était dans l'est de la Méditerranée essentiellement. Bon, il y a eu bien sûr une transmission de certaines choses, de certaines parties de la science grecque en Inde. Mais l'essentiel, c'était l'Est méditerranéen. Avec la science arabe, elle était internationale par ses origines, comme disait Karine, par ses sources aussi. C'est-à-dire, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut lire ce qu'ont écrit les Grecs. Et certaines choses écrites par les Indiens dans la même langue. La bibliothèque est devenue la bibliothèque internationale.
Donc la première mondialisation,
la première mondialisation. Hein. C'est la science monde. Mais le monde, les mots monde, il faut les limiter à de l'Espagne jusqu'aux frontières de la Chine.
C'est déjà un vaste monde.
C'est ça, c'est le monde ancien. Ouais. Avec des extensions. La première extension, ça serait au XIIIe siècle, comme disait Karine, peut-être avant même le XIIIe siècle, en Chine. La deuxième extension, c'est vers le sud de la Méditerranée, c'est-à-dire déjà en Afrique. On a, par exemple, une chose que certains connaissent, qu'au XVIe siècle, on a traduit dans une langue africaine les éléments d'Euclide. Donc, et ça, c'est très important, c'est-à-dire parce qu'on dit que tout cela, c'était nouveau, mais pas du tout. C'est-à-dire que les gens, les royaumes d'Afrique, surtout Sénégal, Mali, etc., ces royaumes avaient déjà un intérêt à traduire à partir de l'arabe des livres comme les livres d'Euclide. Donc cet aspect international, donc, par sa bibliothèque, par ses sources, par les gens qu'on travaille, par ses savants, les nationalités de ces savants, elles sont de partout.
De l'Asie centrale jusqu'au Maghreb, d'Afrique noire.
Partout. Et par aussi les idéologies des savants. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des athées, comme Razi, etc. Donc il y avait du tout. Et cet aspect-là est négligé. Et ce que dit Karine très juste, il ne faut pas faire l'histoire des sciences arabes en ayant les regards vers Rome, Pologne et Paris, et aussi vers l'Inde. Elle dit le nombre de manuscrits en Inde. Moi-même, j'ai édité de certains manuscrits à partir de l'Inde. Donc l'Inde et la Chine, il faut aussi internationaliser ou mondialiser les regards sur cette science.
Alors dans cette mondialisation, est-ce qu'on peut se demander qui a inventé le zéro dans l'histoire? Est-ce que le zéro a été inventé, réinventé plusieurs fois? Comment vous diriez ça, Rojdi Rached?
Moi, je ne sais pas grand-chose là-dessus, mais tout ce que je sais, que les Babyloniens avaient le zéro. Ensuite, elle est allée en Inde. Ensuite, elle est devenue un arabe. Ça, c'est... qui est le propriétaire des zéros ? Je ne sais pas.
Finalement, il n'y en a peut-être pas. Jean-Paul Delahaye.
En fait, il y a plusieurs formes de zéro. Il y a le zéro qui est simplement l'absence. Donc les Babyloniens, quand ils écrivent les nombres en base 60, il peut y avoir une absence. Donc une sorte d'espace vide, donc ça, c'est une sorte d'invention du zéro. Mais le vrai zéro, c'est quand même, je pense, les Indiens qui l'ont inventé. Un symbole, non, vous n'êtes pas d'accord. Alors vous êtes plus compétent que moi, je vous laisse.
Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, il y avait, dans les manuscrits que je travaillais, il y avait des manuscrits du XIe siècle où il y a les zéros. Et le problème, quelle que soit la forme de l'écriture du zéro, c'est pour l'addition et la multiplication. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est, par exemple, j'ai un manuscrit, enfin plusieurs manuscrits, où pour les puissances, c'est-à-dire pour les puissances, vous avez x à la puissance 0, c'est écrit 1.
Mais il y a déjà la notion du 0.
Elle est là.
Allez, on va essayer de mettre tout le monde d'accord en écoutant les Rita Mitsouko sur RFI, 1, 0. Avec les Rita Mitsouko sur RFI, autour de la question pourquoi refaire l'histoire des mathématiques en prenant en compte enfin l'apport des sciences arabes, même pour parler du nombre pi, puisque nous allons nous arrêter aussi sur ce nombre pi auquel vous consacrez un ouvrage, Jean-Paul Delahaye, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, je vous le rappelle, amis auditeurs. Alors, autour de ce nombre pi, fascinant, autour aussi de la figure d'Al-Kashi, astronome mathématicien à la cour de Samarcande, je vous propose d'écouter un petit conte mathématique déniché sur le site d'Universcience, réalisé par Clément Godillot et Aurélien Roclan.
L'histoire de Pi est aussi longue que les chiffres qui s'alignent derrière la virgule. Nous sommes à Samarcande, en Perse, en Asie centrale, en 1420. Al-Kashi est professeur de mathématiques et d'astronomie dans la grande école fondée par le souverain Ulugh Beg. Bien que tout à fait sain d'esprit, Al-Kashi a tendance à faire des mathématiques partout et tout le temps. Il s'intéresse en particulier aux propriétés du cercle. Mettons qu'un épicier lui rende la monnaie en pièces bien rondes, aussitôt il divise leur circonférence par leur diamètre et il trouve 3,141. Ou 3,142, ça dépend. Sauf qu'Al-Kashi n'est pas homme à se contenter de si peu de précision. 3,141 ou 3,142, il faudrait savoir. Pour être plus précis, il me faudrait un concept, une idée, quelque chose de bien solide, méthodique, un raisonnement carré, quoi. Quelque chose qui tienne debout, qui me permettrait de faire tenir le cercle en place. Je pourrais l'enfermer dans un carré. Ou dans deux carrés. J'aurais un cercle inscrit dans un carré circonscrit qui comprendrait un carré inscrit. Si je comprends bien, mon cercle serait compris. Si chaque segment est ainsi divisé à chaque fois et que je réitère à l'infini, il y a bien un moment où les deux polygones auront quasiment la même surface, non ? Voilà, le pi de Al-Kashi est né. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Al-Kashi encadre son résultat, le grand concours est lancé. Parmi les nombreux participants, citons John Machin en 1706, sans décimale. Et bondissons jusqu'au record actuel, messieurs Yi et Kondo en 2010, 5000 milliards de décimales. Sauf que ça ne sert à rien. Parce que pour calculer la circonférence d'un cercle, de Pierre et sa surface Pierre 2, 4 ou 5 décimales, ça suffit. En mathématiques, parfois le résultat est moins intéressant que ce que l'on débusque sur son chemin. Pi a vu émerger de nombreuses questions et de drôles de réponses.
Nombreuses questions, drôles de réponses aujourd'hui encore autour du nombre Pi, Jean-Paul Delahaye, des plus sérieuses, des plus intéressantes aux plus folles.
Oui, alors je corrige quand même quelque chose qui a été dit à l'instant. Il y a 22 000 milliards de chiffres décimaux de pi qui sont connus aujourd'hui, et non pas 5 000 comme ça a été dit. Il y a un progrès donc, qui date de 2016. Et aujourd'hui.
Oui, alors ce petit compte date d'avant. Donc il y en a voilà, maintenant combien, redites-nous ?
22 000 milliards.
Derrière la virgule.
Derrière la virgule. Et en fait, ce nombre de décimales connues est absolument inimaginable. Si on voulait les imprimer, on les imprime pas, ils sont sur des disques durs des ordinateurs, si on voulait les imprimer, il faudrait 22 millions d'ouvrages. D'un million de caractères.
Et est-ce que vous, logicien, mathématicien, vous arrivez à vous représenter
J'imagine 22 millions d'ouvrages. Et donc, si on veut être plus précis, imaginer des étagères sur lesquelles il y en a 10, etc. Non, en fait, on ne peut pas imaginer. Et quelque chose qui est amusant, c'est que ces 22 000 milliards de décimales ont été calculés, mais en fait, jamais aucun humain ne les a lus.
Puisque oui, ça serait beaucoup trop long. Avant, hein.
Donc c'est une sorte d'abstraction dans la mémoire de nos ordinateurs qu'aucun humain n'a parcouru réellement.
Est-ce que ça fait partie justement de la fascination pour ce nombre pi, pour la quadrature du cercle, alors, pour tous ces chercheurs qui, vous l'avez dit, n'ont cessé d'y réfléchir et aujourd'hui de nouvelles questions se reposent.
Oui, alors il y a des questions très très simples qui se posent et c'est pour ça que ce n'est pas totalement inutile de les calculer. Et par exemple, quand on examine les décimales de pi, on a l'impression que ce sont des chiffres, donc de 0 à 9, tirés au hasard. Et effectivement, quand on fait des études statistiques sur leur distribution, sur la façon dont ils arrivent, c'est la même chose que si c'était un dé à 10 faces qu'on lançait un très grand nombre de fois.
Ça semble être complètement aléatoire.
Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne démontre que très peu de choses de cette nature-là. Et par exemple, personne n'a jamais démontré que dans la suite des décimales de pi, il y aura une infinité de fois 0. Ou 1, ou 9, on ne sait pas le démontrer. On le pense, quand on fait les calculs statistiques, on s'aperçoit qu'il y a à peu près un chiffre sur 10 qui est un 0, un chiffre sur 10 qui est un 1, etc. Mais on ne sait même pas démontrer qu'il y en a une infinité.
À peu près, pour un mathématicien, c'est pas bon, hein, comme
formule.
Non,
mais pour un mathématicien, il va parler en termes de limite, il va dire la fréquence limite des 0 et 1 dixième, voilà, ça c'est une propriété qu'on ne sait pas démontrer. Et toutes ces propriétés sur les décimales, en fait, sont extrêmement difficiles à démontrer, et on en connaît très peu. Il y en a une qu'on connaisse, qui résulte du fait que pi est un nombre irrationnel, c'est qu'en fait, jamais dans les décimales de pi, on va obtenir quelque chose qui va être périodique. Par exemple, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est une chose qu'on sait des décimales de pi.
Donc pi est un nombre irrationnel.
Irrationnel, il est même transcendant, ce qui est beaucoup mieux. Ce qui signifie...
Irrationnel et transcendant. Attendez, là, je comprends pourquoi ça fait fantasmer tout le monde.
J'explique très simplement. Transcendant, ça veut simplement dire que ça n'est pas la solution d'une équation polynomiale simple, du genre x2 égale 2, ça fait racine de 2, voilà. Donc ça, c'est un nombre qui est algébrique, on dit. Et transcendance, ce sont les nombres qui sont solution d'aucune équation de ce genre-là. Et ça a une conséquence qui est très importante, c'est que la quadrature du cercle ne peut pas être résolue. Le problème de la quadrature du cercle, qui était posé par Anaxagore, 5 siècles avant Jésus-Christ, c'était le problème de construire un cercle qui est la même surface qu'un carré donné. Et à partir des dimensions du carré, on va imaginer un carré de côté 1 mètre, et on veut, avec la règle et le compas, en faisant uniquement des reports de distance, des intersections de droite, etc., construire un cercle qui est comme surface la même R que ce carré de côté 1. Eh bien, pendant longtemps, on a essayé. Toutes sortes de mathématiciens ou d'amateurs mathématiciens ont prétendu trouver des solutions. Et puis, quand on regardait de près, ça marchait pas, ou ça marchait avec 3 décimales, mais pas plus, etc. la démonstration que Pi est transcendant résout le problème en disant ça n'est pas possible, jamais aucune construction à la règle et au compas ne fera cette chose qu'on a recherchée pendant plus de millénaires. Et c'est un résultat de Ferdinand von Lindemann en 1882 qui a démontré la transcendance de Pi, résolvant donc un problème qui traînait depuis deux millénaires.
Autour de cette question de Pi, je propose de nous arrêter autour de quelques-unes des questions que Pi continue de poser avec une comédie musicale carrément irrationnelle, peut-être assez transcendante, je ne sais pas, montée par une association de jeunes chercheurs marseillais qui se donnait en représentation au théâtre de la Criée à Marseille avec la tournée de Pi. La tournée de Pi, c'est tout de suite sur RFI.
3, 14, 15, comment aller plus loin ? Comment ça va ?
Archimède s'avance et Homère, tout l'enfort évalue.
Était dans une comédie musicale montée par un groupe de jeunes chercheurs marseillais autour de la question du fascinant nombre Pi, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Jean-Paul Delahaye. Pourquoi ce nombre Pi continue de nous fasciner ? Écoutez un autre éclairage original, celui-là, c'est celui de l'écrivain, mathématicien, synesthète et autiste de haut niveau, Daniel Tammet, qui était venu dans notre studio nous faire partager sa vision particulière du monde et des nombres qu'il voit comme des amis. Oui, des amis. Ce synesthète établit en effet des correspondances entre les nombres, les sons, les couleurs, les odeurs. Sa mémoire phénoménale lui a aussi permis de réciter le nombre pi, plus exactement les 22 514 décimales de pi. C'était le 14 mars 2004. Au Musée de l'Histoire des Sciences d'Oxford, Daniel Tammet nous racontait ici même cette expérience.
Le nombre pi, c'est un nombre universel, c'est un nombre qui décrit un cercle, donc un nombre qui semble très simple, puisque un cercle, c'est très simple comme forme, et en même temps, c'est un nombre, quand on parle des décimales, qui est infini, il n'y a pas de dernier chiffre, il n'y a pas d'avant-dernier chiffre, c'est même sur une feuille de papier aussi grande que l'univers, on n'a pas assez de place pour écrire tous ces chiffres. Et pour moi, le nombre pi, c'est comme un poème numérique, gigantesque, qui parle de tout, qui parle de la vie surtout. Et en 2004, j'ai eu l'occasion de réciter ce nombre que j'ai appris.
C'était Oxford, je crois.
Oxford, donc une grande ville en Angleterre.
Au Musée de l'Histoire des Sciences.
Exactement. Devant un public de tous les gens qui venaient de partout, les femmes des ménages, les ouvriers, les adolescentes, pas du tout les matheux, mais les gens qui étaient intrigués par cette histoire de quelqu'un qui, pas qui comptait, mais qui racontait ce nombre, ce poème numérique. Et pendant 5 heures et 9 minutes.
Vous avez récité, alors j'ai noté les chiffres, ouais. Les 22 514 décimales de pi que vous aviez appris les 3 mois précédents de cette performance.
Les premières 22 514 décimales du pi par cœur sans erreur, il y avait des mathématiciens là pour vérifier les pauvres, chaque chiffre. Pour moi, c'était comme un poème avec ses motifs, avec ses rythmes, avec
c'est-à-dire
ses
que
images.
Vous disiez chaque chiffre, enfin comment vous les ressentiez et vous essayez de les faire ressentir au public.
Exactement, j'ai raconté, j'ai disais chaque chiffre sans erreur. Ce que je suis arrivé à faire, c'est de faire sentir, ressentir ces motifs, ces rythmes, ces émotions, ces couleurs aux gens qui n'avaient absolument pas cette synesthésie, n'avaient pas cette idée des mathématiques comme ça, le nombre pi comme un poème. Et il y avait même parfois les gens qui avaient des larmes aux yeux.
En entendant un chiffre
au fond, puisque c'est quelque chose de tellement beau, raconté ainsi. Si j'ai un don, finalement, c'est ça, c'est le don de raconter.
Jusqu'où nous entraînera ce nombre pi, Jean-Paul Delahaye ? Ça donne lieu à des expériences comme celles racontées par des
Moi, personnellement, je suis un petit peu sceptique sur la beauté de la récitation des décimales. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, les chiffres de pi arrivent comme s'ils étaient tirés au hasard. Et si quelqu'un trouvait une régularité particulière dans ces décimales, elle pourrait donner lieu à un résultat mathématique qui serait très intéressant et que tout le monde attend. Et donc, y trouver de la beauté, oui, mais ça, à ce moment-là, c'est la même beauté que celle qu'on trouverait dans une suite de nombres tirés au hasard avec un dé. Donc je suis un petit peu réservé sur la fascination.
Ce nombre pi, il donne quand même lieu à des questions, à des expériences complètement folles. Vous parlez même des Illuminés.
Oui, il y a des gens qui sont fascinés, et j'ai reçu des lettres, en particulier quand j'avais publié la première édition de ce livre, de quelqu'un qui habitait à Montpellier. Bon, maintenant je sais qu'il est mort, donc j'ose en parler. Qui me proposait une formule pour pi avec des racines, donc qui aurait fait de pi un nombre algébrique, ce qu'il n'est pas, puisqu'on a démontré qu'il n'était pas algébrique, et qui parlait du pi dont mon livre parle comme d'un usurpateur. Il disait, l'autre pi, c'est l'usurpateur, c'était son pi à lui, la racine de je ne sais plus trop quoi, qui était le vrai pi.
Donc ça devient une affaire personnelle, là.
Oui, et il en était absolument convaincu. Il m'a écrit 10 lettres d'affilée. Alors au début, je lui répondais, après, je ne lui répondais plus. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il avait cette fascination, et pourquoi il avait réussi à se convaincre absolument qu'il avait trouvé la bonne formule et que l'autre, c'était un usurpateur? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi.
Roche Dirachet, qu'est-ce
qu'il faut s'adresser à un psychologue.
Oui,
ces phénomènes, je l'ai vu pour Fermat.
Oui.
C'est-à-dire, après la publication...
Pour le théorème de Fermat.
Ah oui, après la publication d'un livre sur Fermat, il y avait à peu près une lettre tous les 6 mois pour donner une démonstration de Fermat qui n'était pas encore démontrée, c'est-à-dire avant la dernière démonstration. Donc il y a cet aspect obsessionnel souvent par rapport à ces choses.
Et pour vous, Roche Dirachet, ce nombre pi représente quelque chose?
Non, c'est un nombre comme le nombre E, comme d'autres nombres qu'on utilise. Je ne vois pas de poésie là-dessus. Mais cela étant dit, il y a quand même une question. Quand pi a été considéré, pas comme un rapport, mais comme un nombre. Ça, tout ce que je sais là-dessus, c'est très simple. J'ai déjà cité Beyrouni, mais le prof de Beyrouni qui est Abou Wafa al-Bouzjani, a fait une approximation à 7-8 décimales près, et ça, c'est avant Cauchy. Donc Cauchy est dans cette tradition-là.
D'avoir considéré pi comme un nombre. Hein.
Comme un nombre. Et qu'on travaille sur pi comme on travaille sur un nombre, et non plus sur un rapport. Ou qui exprime un rapport.
C'est en fait l'élaboration du concept de nombre réel.
Absolument.
Le nombre réel n'existe pas dans l'Antiquité. Il y a les grandeurs, et petit à petit forge ce concept qui est une...
Ça, c'est grâce à l'algèbre.
Grâce à l'algèbre.
Ouria, vous avez un rapport particulier à ce nombre pi ou...
Non, pas particulièrement, mais comme beaucoup d'autres concepts mathématiques, justement, c'est quelque chose... duquel on tourne, mais que, bien sûr, on ne voit pas, on ne peut pas le calculer exactement, etc. Et donc, on n'a jamais fini de tourner autour, de faire des circonvolutions, de trouver encore des... 22 milliards, 22 000 milliards, ça ne suffira pas. Je suis sûre qu'on ira plus loin.
On va trouver plus de décimales.
Bien sûr,
de pi. Alors, ici ou ailleurs.
Absolument.
Je vous propose d'écouter Oum, formidable voix du jazz en arabe, extrait de son album Soul of Morocco, cette reprise de Bente Agnos sur RFI.
ماشي لابد نقول حبيتك وانت من حبي فات كل حال داك لورام رام شا وما خاصو عمرو يرجع مازال كنت وامن نوعه محياتك وهي مشات من شحال وبقيت انا
version originale jazzy par Oum sur RFI. Ouria, ça vous parle ?
Je ne connaissais pas du tout. Je suis heureuse de faire connaissance.
Voix magnifique de Oum, chanteuse marocaine.
Marocaine du Maroc ou en France, ou vivante en France ?
Marocaine du Maroc, mais maintenant vivant peut-être en France. Avec des musiciens de jazz.
D'accord.
On peut se demander, entre Maroc et France, entre tous les continents, s'il n'est pas un peu urgent aujourd'hui de rappeler ce dont nous avons essayé de parler aujourd'hui, cet apport des sciences en langue arabe à l'histoire des sciences et à l'évolution des sciences, s'il n'en est pas plus besoin, encore plus aujourd'hui qu'hier. À ce sujet, nouvelle question pour vous, soulevée par Cécile Estienne du mensuel Cerveau et Psycho.
Il y a quelque temps, j'interviewais la physicienne tunisienne Fawzia Charfi, qui me racontait comment, déjà dans les années 70-80, elle s'était trouvée en butte avec de jeunes étudiants qui remettaient en cause la théorie de la relativité d'Einstein, notamment parce que pour eux, ce n'était pas possible que la vitesse de la lumière soit finie, parce que Dieu est lumière, donc Dieu est infini, donc ce n'est pas possible que la vitesse de la lumière soit finie. Comment faites-vous quand vous êtes confronté à ce genre d'argumentation ?
Qui peut répondre ? Roger Rachet.
Descartes, que l'essentiel, c'est le jour où on a compris que la vitesse de la lumière est finie. Elle n'est pas infinie.
C'est ça l'essentiel et vous vous arrêtez
c'est
là.
C'est Pierre Fermat qui a le premier peut-être pas, c'est Lazaine le premier qui a établi ça, et Pierre Fermat a repris la chose, il a établi encore mieux, il a inventé le concept de la voie la plus aisée de la propagation de la lumière. C'est-à-dire, ces choses-là, elles peuvent être utilisées de n'importe quelle manière. Il n'y a pas une manière unique d'utiliser ces choses-là. Par exemple, Descartes considérait que la lumière n'a pas de vitesse, qu'elle est instantanée. La propagation de la lumière est instantanée. Et ça, c'est le grand Descartes. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ces choses-là. Il faut voir ce qu'il y a derrière ces choses-là pour pouvoir comprendre comment les gens pensent. Ce que les gens pensent, s'ils voulaient dire qu'il y a un argument théologique qui intervient pour parler d'un phénomène scientifique, la tâche du professeur, c'est de montrer qu'il y a des types de raisonnements, des types de procédés, et ce n'est pas la première fois. Averroès l'a dit déjà, il a démontré déjà que sur le plan scientifique, c'est un autre type d'argumentation, sur le plan philosophique, c'est un autre type d'argumentation, pour la religion, c'est autre chose, autre type de procédés, et les deux ne peuvent pas se concilier.
Donc il faut, oui, ou rien.
Moi, je voudrais souligner que, même en Occident, la religion a joué un grand rôle. Et que, par exemple, on vient de parler de Descartes. Descartes considérait que 2 plus 2 égale 4 était garanti par Dieu. Et ce n'était pas intrinsèquement vrai, mais vrai parce que garanti par Dieu. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que certains philosophes ou mathématiciens puissent dire justement la chose suivante, 2 plus 2 égale 4, intrinsèquement, et non pas parce que Dieu nous dit que 2 égale 4. Donc c'est pas très vieux, hein. C'est pas très vieux. Parce que Roche dira, je venais de dire, oui, il faut bien faire séparer le bon grain d'ivraie, si je puis dire. Oui. Mais la séparation, elle s'est faite très récemment dans l'ère occidentale. Je ne connais pas l'Extrême-Orient. Donc, vous voyez, on a encore du travail.
On a encore du travail et on a aussi, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus aussi, Jean-Paul Delaire, on a l'impression aujourd'hui que le savoir avance extrêmement vite et qu'en même temps, il y a une sorte de quoi ? De réaction, de retour de bâton et que finalement, plus on peut quoi partager ensemble le savoir commun et ce qui est déjà su et sûr et peut-être qu'ainsi, on pourra faire avancer les choses.
Pour en revenir à Pi, excusez-moi.
Ah non, vous n'êtes pas monomaniaque, mais Pi est partout.
Il y a quelque chose qui est absolument étonnant, c'est l'accroissement de la vitesse avec laquelle les connaissances s'accumulent. Alors, si on cherche à mesurer, évidemment c'est impossible, ou c'est très difficile, on peut compter le nombre de pages de publications scientifiques ou des choses comme ça. Mais dans le cas de Pi, il y a quelque chose qui est absolument fascinant. Je vais citer quelques chiffres. Mm-hmm. Donc, en 1706, on arrive à calculer 100 décimales. Je ne parle pas des époques avant où on en était à 10 en gros. Alors, après, on a réussi à en calculer 1 million en 1973. Donc déjà, on était passé de 100 à 1 million assez rapidement. Et on est passé de 1 million à 1 milliard, cette fois-ci, en 1989. Donc ça fait moins de 20 ans après. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, on n'en est plus à 1 milliard. On en est à 22 000 milliards. Donc il y a une sorte d'accroissement qui est incompréhensible, presque. Et qui est lié... En l'occurrence, pour ce problème particulier du calcul, voilà, à la puissance de calcul, c'est à la capacité qu'ont eu nos ingénieurs de construire des machines de plus en plus rapides, d'une manière absolument étonnante.
Et c'est cette accélération qui peut aussi susciter des réactions, des envies de freiner, ou c'est aussi la méconnaissance de notre patrimoine commun et des savants qui, dans tous les coins du monde, ont fait avancer la science?
Moi, j'ai l'impression que y a une sorte d'évidence et je vois face à un étudiant qui conteste un élément scientifique, j'ai envie de répondre simplement regarde la démonstration, regarde le raisonnement et montre-moi un autre raisonnement qui tienne aussi bien et qui dise le contraire. Et j'ai l'impression que la science parle d'elle-même, les mathématiques en particulier. Et donc, je ne sais pas répondre quelque chose d'autre que va voir toi-même.
Va voir toi-même. Bah, jolie, jolie conclusion. Merci infiniment à tous les trois d'être venus partager ici même sur RFI cette redécouverte des sciences en langue arabe. Merci infiniment, Roche Dirachel. Je rappelle le titre de votre ouvrage de référence, L'histoire des sciences arabes en 3 volumes, Au seuil. Merci Ouria Benissi-Nasseur. On peut citer peut-être La création des nombres, paru chez Vrin. Et puis Jean-Paul Delahaye, merci également. Le fascinant Nombre Pi aux éditions Belin, ouvrage où nous avons encore un exemplaire et un seul à vous faire gagner. Amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail sur notre page Facebook. Merci.
Autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI. Au plaisir de vous retrouver demain avec Apolline Vernon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses autour de la question comment la science infuse et se diffuse pour notre table ronde mensuelle la dernière avant l'été avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique. Merci de votre curiosité, amis auditeurs. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Prochain journal dans une minute.